9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Nous allons prendre un rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui, 17 octobre 61, 17 octobre 2021. Le plaisir d'accueillir ce matin Olivier Lecourt-Maison, bonjour.
Bonjour.
Et Mohamed Kaki, bonjour. Je vous présente dans un instant. 60e commémoration du 17 octobre 61, Beurre FM s'engage toujours. Des émissions, des reportages, de nombreux invités viendront dans ce mois d'octobre évoquer ce 17 octobre 61. Paroles de témoins, analyses d'historiens, des auteurs, de nombreux ouvrages paraissent en ce mois d'octobre. Pour commencer ce cycle, je reçois donc ce matin Mohamed Kaki de l'association Les Oranges et Olivier Lecourt-Maison, historien, universitaire. On lui doit d'ailleurs un livre paru en 2001, 17 octobre 61, Un crime d'État à Paris. Ce livre paraissait aux éditions La Dispute. Mohamed Kaki, vous êtes président de l'association Les Oranges, une association située à Nanterre et qui a maintenant des antennes, si je puis le dire ainsi, à Montreuil et
Épinay
et dans d'autres endroits encore. Et vous nous parlerez justement de cet engagement militant et associatif. Me tourner d'abord, si vous le voulez bien, vers vous, Olivier Lecourt-Maison, rappeler votre combat incessant, infatigable, comme vous, Mohamed Kaki d'ailleurs, sur cette question de connaissance et de reconnaissance. Sur le 17 octobre 61, en 2001, vous aviez fondé un mouvement qui s'appelait 17 octobre contre l'oubli. Alors,
en 2001, effectivement, nous avions créé une association avec d'autres, évidemment, qui s'appelait 17 octobre 1961 contre l'oubli. L'objectif était, sur la base d'un constat, que le devoir de mémoire est évidemment absolument nécessaire pour rappeler ce qui a été perpétré, mais que si c'est nécessaire, c'est insuffisant, et qu'il nous semblait qu'il était indispensable par conséquent d'ajouter à ce devoir de mémoire des revendications précises relatives au massacre du 17 octobre 1961, notamment la qualification du crime comme crime d'État, l'ouverture de toutes les archives, et la mise en place d'un véritable lieu de mémoire qui à l'époque n'existait pas.
À cette époque, vous étiez nombreux, intellectuels, universitaires, hommes et femmes politiques. Il y avait tout ce maillage que vous vouliez à la fois dans la réflexion, surtout, c'était essentiel à l'époque.
Oui, rappelez que c'est la préparation du 40e anniversaire des massacres du 17 octobre 61 en 2001 a été précédée par la mise en place d'un collectif unitaire et qui continue d'exister et qui porte aujourd'hui les principales revendications de celles et ceux qui sont mobilisés sur ces questions. Et ce qui a permis effectivement à l'époque, d'une part, de multiplier les initiatives à Paris, en région parisienne, expositions, colloques divers et variés, mais bien sûr aussi en région, et bien sûr aussi la très importante manifestation qui avait eu lieu à l'époque, qui était, avant celle de 2011, et j'espère celle qui va venir, l'une des manifestations les plus importantes sur ces questions.
On va revenir avec vous ensuite justement sur ce qui fait que de cette date, c'était 2001, sur cette mobilisation que vous portiez avec 17 octobre contre l'oubli, mais en 91 déjà, il y avait des initiatives qui étaient
parues.
Me revient le documentaire de Mehdi Lalaoui de l'association Nom de la mémoire, qui était un des premiers. Il y avait aussi les ouvrages bien avant de Paulette Péju, de monsieur et madame Péju. Donc voilà, on a parlé du 17 octobre 61 il y a déjà bien longtemps, si je puis dire, mais il était important de souligner toujours et encore que en 2021, 60 ans après, on va évoquer la reconnaissance. Vous êtes militant, citoyen à vous, Mohamed Kaki, à Nanterre. Vous avez créé l'association Les Oranges, qui a eu de cesse que de rappeler et de porter cette reconnaissance du 17 octobre 61, mais pas que, puisque vous me rappeliez en préparant l'émission que vous avez aussi œuvré dans d'autres travaux autour, en 2003, sur l'année de l'Algérie en France, avec tout ce que ça avait aussi d'audacieux, aussi de parler des créateurs aujourd'hui, à l'époque en tout cas en France. Mais le 17 octobre 61 est très fort dans votre combat, Mohamed Kaki.
Oui, merci pour votre invitation tout d'abord. Et oui, ce qui est important, c'est de rappeler que c'est un héritage politique de nos parents et que ça s'inscrit de manière très lointaine et il faut en être fier. C'est-à-dire que notre héritage est un héritage lointain qui démarre en 1926 avec la création de l'étoile nord-africaine à Paris. C'est-à-dire que dans le cadre de l'internationale communiste à l'époque, à Paris a été créée l'étoile nord-africaine et le PPA en 1937 justement à Nanterre. Donc on est dans une longue histoire de combat politique des Algériens. Et donc les Algériens, c'est pas seulement l'histoire misérabiliste des bidonvilles, mais c'est une histoire politique importante dont nous sommes fiers. Et le 17 octobre 1961, caractérise une marche de la dignité très importante. Et d'ailleurs, je suis auteur d'une pièce de théâtre que j'ai écrite depuis 2 ans, que j'ai terminée au mois de juin, et qui s'appelle « 17 octobre 1961, je me souviens », qui va être jouée dans plusieurs théâtres récemment, enfin, donc au mois
d'octobre. On y reviendra et on donnera rendez-vous aux auditeurs.
Voilà, et c'est très important aussi de travailler sur cette question de l'héritage, la question de la transmission, parce que c'est ça, moi, qui me taraude, puis avec mes amis, de comment on peut transmettre cette histoire, mais de manière, je dirais, comme dit souvent Mehdi Lalaoui, une mémoire de combat, et non pas une mémoire misérabiliste, hein, une mémoire du pathos, hein, où on pleure, etc. Non, non, c'est bien une mémoire de combat, parce que le 17 octobre 1961, c'était pour lutter contre ce couvre-feu inacceptable, raciste, spécifique pour les Algériens, le 5 octobre, imposé par le préfet Papon, que j'ai appelé Papillon dans ma pièce de théâtre, et que, eh bien, il fallait être courageux ce jour-là pour braver ce couvre-feu et dire « on va manifester à Paris de manière pacifique ». Il faut le rappeler, c'est une manifestation pacifique. Et du coup, des femmes, des enfants, endimanchés, sont partis à Paris pour dire à l'opinion publique à l'époque « eh bien, nous sommes là, et donc justice, égalité, fraternité, indépendance de l'Algérie ».
Olivier Lecourt-Maison, sur votre démarche intellectuelle universitaire, évoquer le 17 octobre 61 avec cette détermination de reconnaissance, c'est important pour que il y ait des marqueurs, il y ait un marqueur politique qui soit fait et attendu en ce 60e anniversaire du 17 octobre 61. Est-ce qu'on peut dire que il y aurait eu quelques avancées? Est-ce qu'il a fallu, quand je rappelle que vous êtes l'un et l'autre et d'autres encore infatigables sur cette question de reconnaissance, et quelles seraient les exigences? On en parlera longuement dans une deuxième partie, mais d'abord dire le point fort qui pourrait être celui de cette reconnaissance en 2021.
Tout d'abord, rappeler une chose. Eu égard aux connaissances qui sont aujourd'hui les nôtres, et le « nous » est évidemment un « nous » collectif, grâce à des ouvrages, notamment ceux du regretté Jean-Luc Ainoni, mais à des ouvrages élaborés par des historiens britanniques, par des historiens, historiennes français et algériens, nous en savons aujourd'hui suffisamment sur le 17 octobre 1961 pour pouvoir qualifier de façon précise ce qui a été perpétré, d'une part au mois d'octobre 61, mais plus précisément ce jour-là. Qualification à minima assurément celle d'un crime d'État. Crime d'État parce que c'est effectivement Maurice Papon qui prend la responsabilité de ce qui n'est pas une répression mais un massacre. Et eu égard à ce conseil du fonctionnement de la Ve République, eu égard aux circonstances exceptionnelles de ces rassemblements, il est clair que Maurice Papon n'a pas pu agir sans avoir l'aval de son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur, et sans être couvert par le gouvernement. D'ailleurs, couvert, il l'est doublement, si je puis dire. Il l'est au moment des événements, et il l'est immédiatement après, où l'on va assister à la mise en place, l'élaboration d'un véritable mensonge d'État, tendant à accréditer la thèse selon laquelle il y a eu 5-6 morts, et que la responsabilité ultime de ces morts incombait évidemment non pas à la police, mais aux militants du FLN. Et donc, il nous semble qu'effectivement, l'un des éléments absolument essentiel des revendications serait la reconnaissance de ce crime comme crime d'État, qui est à la fois responsable et coupable, que ce crime est une adresse, pour paraphraser Bertolt Brecht, mais qu'il est aussi un nom. L'adresse, c'est l'État, le nom, c'est Maurice Papon, et au-delà de Maurice Papon, les institutions de l'époque. Par ailleurs, nous paraît, et c'est encore une fois un nous collectif, essentiel la question de l'ouverture des archives, pour répondre à ceci, entre autres, qui est l'injonction des responsables politiques lorsqu'ils sont interpellés sur ces sujets, où ils feignent de croire ou voudraient faire croire que les connaissances sur le sujet sont insuffisantes, et ils disent c'est aux historiens de travailler. Soit, d'abord constatons que les historiens et historiennes n'ont pas attendu les injonctions du pouvoir politique pour travailler sur ces sujets, et la deuxième remarque, la suivante, c'est que pour travailler, il faut avoir accès à toutes les archives et constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Encore une fois, le regretté Jean-Luc Ainaudi en a fait les frais puisqu'il avait demandé à la préfecture de police de Paris de pouvoir consulter certaines archives et cela lui a été refusé. Pour des raisons qui sont fondamentalement politiques, parce que chacun savait, lorsque cette demande a été faite, que les travaux de Jean-Luc Ainaudi remettaient fondamentalement en cause la thèse officielle selon laquelle il y avait très peu de morts.
Jean-Luc Ainaudi et d'autres, et vous en êtes, Olivier Lecourt-Maison, hein, avec l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, Mehmet Kaki, dans une autre manière, à la fois avec son engagement citoyen sur le terrain de reconnaissance du 17 octobre 61. On parlera dans un instant de ces plaques commémoratives, hein, qui sont dans l'espace public, la visibilité de ce que fut le 17 octobre 61. C'est aussi des marqueurs importants, et puis de cette création théâtrale dont vous nous parlerez à nouveau. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que c'est un rendez-vous avec l'histoire, avec le 17 octobre 61. Et pour nous en parler, le plaisir de recevoir ce dimanche matin Olivier Lecourt-Grandmaison, historien à qui l'on doit un ouvrage important. Qui s'appelle 17 octobre 61, Crime d'État.
Un crime d'État à Paris.
À Paris. Il est paru aux éditions La Dispute et je reçois également Mehmet Kaki, qui est responsable de l'association Les Oranges et qui nous parle passionnément du 17 octobre 61 dans son histoire, à la fois personnelle et collective, hein, quand il s'engage, quand il parle d'héritier de ce 17 octobre 61. Et il nous parlera dans un instant de sa création théâtrale parce que il est des mots et des manières de parler du 17 octobre 61, et je m'arrêterai aussi sur des ouvrages aussi qui sont parus. Il y a les ouvrages d'historiens, mais il y a aussi de la littérature qui a aussi donné lieu à ce que fut ce massacre du 17 octobre 61. Pour l'instant, nous allons peut-être nous arrêter, si vous le voulez bien, Olivier Lecourt-Maison, sur ce qui s'est passé il y a quelques temps. C'était le président de la République, Emmanuel Macron, qui accueillait à l'Élysée les harkis, très âgés aujourd'hui, et leurs enfants, leurs descendants, en leur promettant une réparation, une réconciliation, un pardon. Qu'est-ce que cela vous évoque en tant qu'historien, universitaire, sur cette réflexion autour de la mémoire de ce que fut le 17 octobre 61 pour ce qui nous concerne, mais pour hier, ces hommes et ces femmes qui étaient enrôlés dans la guerre d'Algérie du côté de la France?
Alors certains l'ont fait de façon volontaire, d'autres ont été plus ou moins contraints éventuellement par des circonstances. Quoi qu'il en soit, la responsabilité des autorités françaises de l'époque et des militaires, mais surtout fondamentalement des politiques, est évidemment engagée de façon essentielle, puisque une partie de ceux qui ont été sciemment laissés en Algérie après la victoire du FLN ont été arrêtés et parfois massacrés. Et de ce point de vue-là, il ne me paraît pas du tout anormal que l'État français reconnaisse aujourd'hui le tort, insigne et ses responsabilités.
Y compris dans ce qu'ont vécu les harkis aujourd'hui en France.
Par ailleurs, rappelez que ceux qui sont arrivés en France, effectivement, ont été pendant des décennies parqués effectivement dans des camps, dans des conditions à la fois politiques, juridiques, sanitaires, sociales, absolument inacceptables. Et donc Emmanuel Macron reconnaît aujourd'hui cela, me paraît tout à fait légitime. Il faudrait ajouter à cela qu'il serait alors aussi parfaitement légitime qu'Emmanuel Macron ait les mêmes mots et les mêmes prises de position à l'endroit des massacres du 17 octobre 1961. Parce que ce qui a été fait relativement aux harkis est effectivement très important. C'est à la fois un pardon, une reconnaissance, et si ma mémoire ne me trahit pas, c'est également des réparations financières. Et donc, relativement au massacre du 17 octobre 1961, nous sommes en droit d'exiger que 60 ans après, Emmanuel Macron reconnaisse effectivement ce qui a été perpétré, et au fond qu'il utilise les mêmes mots qui ont été utilisés pour les harkis, c'est-à-dire qu'il éventuellement demande pardon, mais surtout, encore une fois, qu'il qualifie de façon aussi précise que possible le crime, qu'il ouvre les archives, et aussi que soit enfin véritablement érigé un lieu de mémoire, parce que si l'on compare avec d'autres événements terribles de l'histoire française, on constate que Paris est une ville où les, comme vous l'avez dit, les marqueurs historiques sont très présents, mais comme par hasard, ces marqueurs historiques très présents pour certains événements ne le sont pas pour ce qui concerne l'histoire coloniale en général, l'histoire de l'Algérie en particulier et les massacres du 7 octobre 1961 plus spécifiquement.
Il a été recensé plus de 50 plaques commémoratives à la mémoire du 17 octobre 61 des Algériens et une seule porte le fait que soit nommé Maurice Papon. C'est quand même, c'est une certaine hésitation que de dire que, voilà, le 17 octobre, il y a eu un massacre. Non, il n'y a pas massacre d'ailleurs. Si, massacre sanglant d'Algériens lors d'une manifestation pacifique. Mais il y a, on ne nomme jamais le responsable.
Alors,
sauf pour la nommer, c'est la ville de Tulle.
Alors, je crois que c'est la ville de Tulle et je crois qu'il y a une plaque à Bagnolet où le nom de Maurice Papon est effectivement inscrit. Précision, non seulement on ne nomme pas le principal responsable de ces massacres, Maurice Papon, mais d'une façon générale et plus spécifiquement, à ma connaissance, je ne connais pas de plaque où le qualificatif de massacre et de crime d'État soit effectivement employé. La formule la plus avancée, si j'ose dire, et elle ne me convient évidemment pas, c'est celle qui a été formulée, élaborée par les services de l'Élysée lorsque François Hollande était président de la République et qui qualifie les massacres de sanglantes répressions. D'une part, à la fois les historiens considèrent qu'il ne s'agit pas d'une sanglante répression, et rappeler là aussi la mémoire de la regrettée Nicole Dreyfus, qui avocate du FLN, mais aussi avocate engagée pour la reconnaissance des massacres du 7 octobre 1961 comme crime et comme crime contre l'humanité, Nicole Dreyfus estimait, sur la base de la définition du crime contre l'humanité, à la fois la lettre et son esprit, rappeler que c'est inscrit dans le code pénal français, que les massacres du 7 octobre 1961 pouvaient être effectivement qualifiés de crime contre l'humanité. Et jusqu'à présent, force est de constater que aucun président de la République, aucune majorité, que ce soit de droite ou de gauche ou l'actuelle, ne s'est engagée dans cette voie.
Mamet Kaki, vous, sur la ville de Nanterre, où vous avez œuvré avec détermination, avec votre association, les Oranges, pour qu'il y ait ce marqueur visible dans l'espace public, une plaque, une... Mais vous avez fait très fort, vous avez quand même nommé le boulevard du 17 octobre 61, un arrêt de bus 17 octobre 61, mais c'était pas gagné, c'était une longue... lutte avec la municipalité ?
Non, c'est jamais facile et toutes ces batailles sont jamais gagnées d'avance. C'est un long combat qui demande beaucoup de détermination. Mais si vous permettez, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, moi je dirais que Maurice Papon est un lampiste par rapport aux responsabilités plus générales. C'est un criminel, certes. Il a été préfet à Constantine, il faut le rappeler. C'est lui qui a mis en place les procédures de la torture. Notamment avec les supplétifs autour de lui. Il avait créé une équipe de supplétifs autour de lui et il a délégué des choses les plus horribles. Mais il faut rappeler qu'il y avait le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et le Premier ministre, Michel Debré, qui étaient ses chefs. Et c'est une responsabilité politique et c'est en ce sens que c'est un crime d'État. C'est pour ça qu'on l'appelle crime d'État. Pourquoi ? C'est pas un préfet, il est à la solde, d'abord... des politiques. C'est un fonctionnaire, même s'il a été plus tard ministre. Il faut le rappeler qu'il a été ministre jusque dans les années 80, jusqu'à l'élection de François Mitterrand. Avant, donc, il a été sous Giscard ministre. Donc, c'est important de rappeler ça, que jamais un administratif, il est toujours sous les ordres d'eux. Voilà, ça c'est premier point. Ensuite, il y a trois points sur la question de la reconnaissance. Moi, je pense que effectivement, il faut rappeler une chose simple et toujours la rappeler. Cette histoire du crime d'État qu'ont subi les Algériens, c'est d'abord l'histoire de France. C'est pas l'histoire des Algériens uniquement, parce que ça s'est passé à Paris, parce que à l'époque l'Algérie était un département français, et donc c'est l'histoire de France qu'il faut restituer aux Français, parce que les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire, et il faut jamais cesser de le dire, et donc il faut que ce soit inscrit dans les manuels scolaires. La deuxième chose, pour revenir à votre question, je vous remercie, c'est effectivement l'espace public. Nous, l'association Les Oranges, effectivement, on a œuvré depuis très longtemps à ce que l'espace public devienne un lieu de culture et un lieu de savoir. Donc on a fait effectivement deux choses, un long combat depuis plus de 20 ans, qui a été le boulevard du 17 octobre 1961 à Nanterre et qui est unique en France, c'est vrai. Il n'est pas tombé du ciel, c'est le produit d'un combat, parce que les gens à l'époque étaient timorés, les élus de l'époque, nous disaient « Ah bon, vous pensez que, etc., ça va pas faire ». Et puis il y avait aussi, il faut rappeler, pour être juste, le préfet n'était pas d'accord. Le préfet de Nanterre à l'époque, il n'était pas tout à fait favorable à ça. Donc c'est une longue bataille politique, administrative, militante, extrêmement importante. La deuxième chose, et dans l'espace public, et pour moi c'est très important, l'espace public comme lieu de savoir et comme lieu de culture, nous avons obtenu, pendant des années de combat, la rue et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad du Grand, du savant, le savant, notre savant algérien, qui a travaillé avec Pierre Bourdieu et qui a fait des travaux importants à l'époque avec Bourdieu en Kabylie, en Algérie. Donc c'est très important. Un savant comme ça, nous l'avons sorti de terre, je dirais. Il était il était mis à la cave dans le noir total, alors que c'était un grand savant. Et moi, je trouvais que c'était injuste. Et donc, dès sa mort en 1998, on a commencé un combat en disant il faut que Abdelmalek Sayad, ce grand sociologue algérien, eh bien, il ait un espace. Et nous avions souhaité que le collège l'emporte, porte son nom. Et on a mené une longue bataille avec Monsieur Sarkozy à l'époque. Et c'est Madame Balkany, donc la femme d'eux, qui a refusé, à l'époque était vice-présidente, qui a dit « Ah ben non, un nom comme ça, ça va stigmatiser le collège ». Vous voyez où on en est, c'est-à-dire que tous ces schémas de représentation négatives sur lesquels il faut se battre, et donc nous sommes effectivement très heureux qu'aujourd'hui, à Nanterre, nous avons obtenu ces deux batailles, le boulevard du 17 octobre 1961 et donc cette rue et ce groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom de notre savant. Et donc, comme disait un ami, eh bien, en amour comme en amitié, il faut des preuves.
Juste sur cette revendication, ces revendications, puisque d'année en année, le collectif s'est réuni, près de 70 signataires, des associations, des organisations syndicales, politiques, des militants, des citoyens vont être, je l'espère et vous l'espérez fermement, vous aussi, évidemment, le 17 octobre à cette manifestation à Paris. On va rappeler qu'elle partira à 15h du Rex, c'est pas un hasard d'être sur les grands boulevards parisiens et ira en direction du
pont Saint-Michel.
Quelles sont les revendications, Olivier Lecourt-Grandmaison et vous ensuite, Mamed Kaki, qui sont à nouveau fortes dans cet appel que vous dirigez, que vous allez distribuer pour que soyons nombreux ce 17 octobre 2021. Parce que le 17 octobre 61 a du sens que si nous sommes nombreux dans cette reconnaissance et cette volonté d'un geste fort, et on rebondira sur ce geste fort que vous pouvez attendre. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
17 octobre 61, 17 octobre 2021, 60e commémoration du 17 octobre. Pour nous en parler, Olivier Lecourt-Grandmaison, historien, universitaire, Mamed Kaki de l'association Les Oranges. On a évoqué tout au long de cette émission cet héritage dont nous parle Mamed Kaki et cette volonté politique et historique dont nous parle également Olivier Lecourt-Grandmaison. Olivier Lecourt-Grandmaison, sur cette commémoration, il y a des exigences dans les revendications qui sont portées par le collectif. J'ai l'appel sous les yeux qui rappelle l'exigence que vous avez, on parle d'un geste fort, mais qu'est-ce que c'est qu'un geste fort en politique, Olivier Lecourt à Maison?
Je me méfie beaucoup de l'expression geste fort, qui est une expression forgée au fond d'une part par les politiques et sans doute plus encore par les communicants qui travaillent pour eux.
Les gestes trop modérés.
Souvent, les gestes forts sont effectivement ne sont forts que pour ceux qui ont fait le geste et pour ceux qui cherchent à faire croire que le geste est fort. Et en fait, en général, il est relativement aux revendications de celles et ceux qui exigent quelque chose relativement faible. Il n'est qu'à rappeler, entre autres, la déclaration sibylline de François Hollande qualifiant les massacres de sanglantes répressions. Alors on peut considérer que par rapport à ce qui existait antérieurement, c'est un petit pas. Le problème des petits pas, c'est également aussi ce que revendiquent les responsables politiques en général. Mais quelques petits pas ne font pas une direction, quelques petits pas ne font pas un chemin véritablement tracé. Et jusqu'à présent, effectivement, il y a eu des petits pas, il n'y a pas eu véritablement de chemin tracé permettant de conduire et de conclure à l'effective reconnaissance des massacres perpétrés le 17 octobre 1961. Et d'ailleurs, l'appel qui est aujourd'hui celui qui réunit un nombre très important d'organisations politiques, syndicales et d'associations, est pratiquement le même à la lettre et l'esprit que celui qui a été élaboré il y a 20 ans. Et pourquoi est-ce que c'est pratiquement le même ? Précisément parce que, effectivement, hélas, les responsables politiques depuis en 20 ans n'ont, au fond, pratiquement rien fait. Ou en tout cas, n'ont fait que des petits pas qu'ils ont cherché à présenter comme des gestes forts. Soulignez ceci d'ailleurs, puisque vous l'avez rappelé, il y a en France effectivement une cinquantaine de plaques, de squares, de boulevards. Les choses ont plutôt progressé au niveau local, les choses ont plutôt progressé au niveau des régions, et on a assisté en l'espace de 20 ans à ce que j'appelle une nationalisation des mouvements et des associations qui se battent pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961. Nationalisation devant être compris ici comme une extension nationale de. Et cela ne fait que souligner plus encore ce qui m'apparaît relativement évident, à savoir la pusillanimité remarquable, sinistre véritablement, des plus hautes autorités de l'État qui, jusqu'à présent, ne font toujours pas droit aux principales revendications du collectif, alors même qu'il s'est considérablement élargi, à la fois du point de vue des signataires et encore une fois, considérablement élargi au niveau national.
On pourrait attendre que Emmanuel Macron parle de massacre d'État.
Cela fait partie effectivement des revendications du collectif et je pense que effectivement nous devons être très fermes sur cette question. Il s'agit, eu égard à ce que nous savons effectivement des responsabilités de l'époque, il s'agit bien d'un crime d'État et il doit être reconnu comme tel.
Mohamed Kaki, donc dans cette démarche pour cette commémoration du 60e anniversaire, à la fois dans votre éloquence et votre dynamisme, vous avez créé une pièce de théâtre. Parlez-nous de dans quel état vous êtes quand vous avez cette écriture théâtrale autour du 17 octobre 61 et puis vous nous donnez les rendez-vous, les dates pour nos auditeurs, nos auditrices, pour que nous allions voir cette création.
Alors, mon état d'esprit est toujours le même. C'est rien ne se donne, tout s'arrache. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est ça. C'est-à-dire que si on fait rien, on n'a rien. La deuxième chose, c'est Abdelmalek Sayad disait, exister, c'est exister politiquement. Donc, pour les 60 ans, nous allons exister collectivement, de manière large, à Paris. J'appelle vos auditeurs à venir très nombreux devant le Rex à 15h, parce que c'est très important qu'on soit nombreux. C'est comme ça qu'on se fait entendre. Et la troisième chose, pour pouvoir tourner la page, comme on nous dit souvent, les politiques, c'est ce qu'ils nous disent. Oh, il faut tourner la page, il faut pacifier. Pour tourner la page, il faut l'écrire. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, depuis 2 années, je me suis attelé à l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle 17 octobre 1961, je me souviens. Alors, c'est quoi cette écriture? C'est le singulier dans, je dirais, l'histoire collective. C'est-à-dire que, en fait, elle s'inspire de nos vécus, hein, c'est-à-dire des gens de ma génération, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vécu aussi dans les bidonvilles, mais aussi dans les quartiers populaires, etc., etc. tout ce racisme quotidien de l'époque des années 60, 68, etc., lorsqu'on était jeune, petit, à l'école, et dont nous avons enfoui comme ça, et donc qui remonte et qui croise la grande histoire, celle de nos parents, l'histoire collective. Autrement dit, il y a je tente de faire une identification collective du singulier dans l'histoire globale que nous avons et que nous revendiquons tous ensemble. Et puis aussi, le théâtre, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rigoler aussi à un moment donné. Tout n'est pas, je dirais, dans le drame, les coups, etc. Il y a des moments, nos parents étaient aussi rusés. Ils ont pris des coups, certes, le bilan aurait été beaucoup plus... ils ont résisté, sont des résistants. Et donc, ce que nous voulons montrer, c'est d'abord le corps d'exception. C'est-à-dire, à l'époque, l'histoire coloniale, et c'est pour ça qu'elle a été d'une grande sauvagerie, cette manifestation. Pourquoi elle a été de sauvagerie? C'est parce que le préfet Maurice Papon, mais les autorités politiques de l'époque, leur tête, leur vision, leur schéma de représentation, c'est qu'un Algérien, il doit être courbé. Et donc, ce jour-là, nos parents... Eh bien, ils se sont relevés, comme dirait notre ami Sidi Mohamed Barkat, le philosophe algérien, c'est le corps d'exception. C'est-à-dire que le corps s'est mis debout, droit, c'est fini, on baisse plus la tête. Et donc, c'est la marche pour la dignité, c'est la marche pour l'égalité, c'est la marche pour la justice. Et c'est pour ça que ces 60 ans-là, pour nous, eh bien, ils sont déterminants, parce que c'est à la fois une charge symbolique, émotionnelle, historique, politique, juridique, très important, et nous attendons du président Emmanuel Macron qu'il reconnaisse de manière solennelle, effectivement, ce crime d'État. Alors,
parlez-nous de la pièce Mamet Kaki, oui, parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps. D'accord. Donnez-nous les rendez-vous pour aller entendre cette volonté, cette détermination que vous avez à avoir écrit cette histoire et la mettre en scène au théâtre.
Eh bien, nous avons quelques dates. Voilà, on a eu le bonheur d'être reçus. Donc, on sera reçus le 16 octobre à 19h à Nanterre, au théâtre Par le Bas. Donc, on va jouer dans ce théâtre-là. Il s'agit d'une lecture-performance. Hein. Le 23 à Aubervilliers, par nos amis, le 93 au cœur de la République, qui nous reçoivent à l'espace Renaudy, donc à 20h cette fois-ci. Le 24, alors là, c'est un moment aussi très très important, puisque nous sommes reçus par la ville de Épinay-sur-Seine, donc à la Maison de la Musique et du Théâtre, où on nous accueille vraiment chaleureusement, et c'est à 16h30 précisément, où ça va être un moment très très chaleureux. Et enfin, le 6 novembre, nous serons donc à Nanterre, au Théâtre des Fêtes, une nouvelle fois, et nous serons également à Stein, puisque nos amis de Stein sont en train de nous programmer donc dans la ville de Stein, que je tiens à saluer également, et la date va être bientôt, je dirais, annoncée, nous l'annoncerons prochainement.
Alors, cette pièce de théâtre, vous êtes seul en scène ou comment ça se passe? Donnez-nous un petit peu envie de voir le contexte de la pièce de théâtre.
Tout à fait.
En deux petites minutes.
Alors, en deux petites minutes, il s'agit d'une transmission d'un grand-père qui parle à sa petite-fille. En fait, souvent, la communication, c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, donc et cette jeune fille qui assiste aux gilets jaunes, qui assiste à plein de combats, qui est une étudiante en sociologie, eh bien elle va forcer son grand-père à parler et à raconter, et tout simplement parce que lui lui disait fais tes études et tais-toi, ne va pas aux manifestations, ne fais rien, travaille et tais-toi. Et donc elle lui dit non, parce que toi, quand t'étais jeune, eh bien t'as participé aux manifestations, donc tu vas pas me la faire, maintenant tu vas me raconter cette histoire et tu vas te mettre en face de moi et tu vas me raconter. Et donc il se lance dans un long monologue où il va charrier l'histoire du 113 chemin de Chatou. C'est quoi le 113 chemin de Chatou? Eh bien, c'est dans la ville de Hesse, et il s'agit d'un bidonville terrible, où à l'époque, pour traverser, pour aller chercher l'eau, eh bien, on se faisait écraser donc à l'avenue Léline, où les gens où les voitures roulaient de manière très très forte. Donc c'est à la fois des moments difficiles, mais aussi des moments drôles,
hein, puisqu'on parle des moments de solidarité aussi dans le bidon.
Des moments de solidarité où on parle, voilà. Et puis il y a des abus de justement les abus de la police de l'époque. Par exemple, on parle de cet inspecteur, l'inspecteur Jean-Pierre P, avec son adjointe Martine Bouche d'Égout. Donc comme son nom l'indique, qui ne déverse que de la haine et de la violence par sa bouche. Donc il y a des moments drôles, il y a des moments, parce que c'est ça aussi le théâtre, c'est une écriture à la Heiner Müller et aussi à la Aziz Chouaki, c'est-à-dire qu'on passe du coq à l'âne, et c'est ça qui est intéressant pour justement garder les spectateurs en bouche.
Merci Mehmet Kaki de cette passion à parler de votre création théâtrale, et elle n'est pas des moindres puisque elle évoque le 17 octobre 61, et c'est de cela que nous avons parlé tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche. Merci Olivier Lecougre-Maison d'être venu aussi apporter votre pas témoignage mais tout votre dynamisme sur cette question mémorielle qui est importante à la fois dans la recherche, dans l'histoire par les universitaires, mais aussi dans cette forme de création.
Olivier est un fidèle.
Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. Et tout au long de ce mois d'octobre, Beurre FM se fait largement l'écho de l'importance de ce rendez-vous avec le 17 octobre 61.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine donc. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.